Oui.
Oui, oui.
A parte il fatto che ci vedere quando scade questi portodarmi, comunque.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non da vivere per niente.
Dis-moi, par où dire?
Train to Buffalo, New York.
135, it's all the way back 42.
42?
How do you go there?
C'est un art.
Pourquoi c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art,
façon de voir,
c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme.
Façon de voir.
Moi je montrerai tout.
Façon de voir.
Vert, rouge, jaune, violet.
Façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Bon, c'est pas Picasso, c'est moi.
Façon de voir.
Façon de voir.
C'est quelque chose qui fait du bien à la tête par les yeux.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
La photographie est particulièrement à l'honneur dans la capitale ces jours-ci avec la 10e édition du Photo Brussels Festival. Jusqu'à la fin du mois, plus de 50 expositions sont à découvrir dans des centres d'art, des musées et des galeries. Partons donc à la découverte de quelques-uns de ces lieux. L'Enfant Sauvage dans le centre-ville, La Nombreuse à Saint-Gilles et le Hangar à Ixelles.
On est devant la galerie de l'Enfant Sauvage et les visiteurs sont accueillis déjà dès la vitrine avec une carte de l'île qui est reproduite en sticker et puis une petite vidéo. Et cette vidéo, elle est importante parce que le destin de l'île d'Aoshima a basculé avec cette vidéo puisque c'est la vidéo qu'un célèbre reporter animalier japonais a réalisée. Et ça a entraîné une déferlante de touristes sur l'île juste après la diffusion.
Je m'appelle Catherine Longly, je suis plasticienne et photographe et je présente aujourd'hui mon nouveau projet qui s'appelle Cat Island Blues. On se trouve à la galerie de l'Enfant Sauvage qui se situe à deux pas du Cirque Royal, rue de l'Enseignement, dans le centre de Bruxelles.
Comment est-ce que vous avez découvert cette île Aoshima au Japon ?
Alors, je travaille 2 mois par an au Japon depuis environ 10 ans et je m'octroie à chaque fin de période de travail quelques petits jours de vacances. Alors évidemment, je suis un petit peu attentive à tout ce qui se passe sur Internet, au sujet du Japon, des endroits un peu insolites. Le Japon est face à un problème de surtourisme, donc j'essaye de pas aller rajouter des problèmes là où il y en a. Donc je cherche des endroits un petit peu reculés et voilà, j'ai tombé sur une île au chat, Aoshima, au fin fond du Shikoku, une région qui est pas tellement visible. Donc je me suis dit, pourquoi pas y aller pour les vacances. Je me suis rendue à Aoshima et en fait c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose s'était passé sur cette île. L'histoire de cette île m'a vraiment obsédée et j'ai creusé pour essayer d'en découvrir tous les contours et de raconter l'histoire de l'île, pas seulement de la perspective des chats, mais aussi de ceux qui l'habitent et de toute cette riche histoire des événements qui s'y sont produits.
C'est une île qu'on pourrait décrire. On a ici une photo satellite. Comment est-ce qu'elle se présente ?
Alors, l'île d'Aoshima, elle est située à plus ou moins 40 minutes en bateau de Nagahama, dans la préfecture de Ehime, au Japon. Donc, c'est un coin déjà un petit peu reculé. Et puis c'est assez difficile d'accès, donc 40 minutes de bateau quand la mer le permet. Et puis quand on arrive sur l'île, donc c'est une toute petite île qui fait 1 km de long sur 300 mètres de large. Aujourd'hui, la plupart de l'île est recouverte par de la végétation, donc il n'y a plus qu'un tout petit espace où quelques maisons sont encore habitées, où on peut circuler, et le reste est devenu complètement inaccessible puisque la nature y a repris ses droits.
Juste à côté, on découvre vos premières photographies pour ce projet, Catherine Longley, des photographies qui ont été tirées sur un papier un peu particulier.
Oui, alors j'ai essayé vraiment de soigner la forme des images pour que ça fonctionne avec l'histoire que j'ai envie de raconter. Et donc c'est l'histoire d'une île qui est en train de revenir, une île déserte qui est dans un équilibre très fragile. Donc j'avais envie d'un papier qui donne cette impression de fragilité. Donc c'est un papier japonais qui fait 42 grammes sur lequel j'ai imprimé les images. Et le bois qui sert à faire les encadrements provient de l'île d'Aoshima. Donc sur cette île, il y a beaucoup de maisons un peu effondré, parce que les habitants, on va le voir plus tard, les habitants l'ont déserté. Donc il y a plein de bois abandonnés que les habitants ont accepté de me donner, en tout cas une petite partie, et j'en ai fait des encadrements. Donc pour qu'on ait à la fois cette connexion avec l'histoire de l'île, ce témoignage de ce qu'a été cette île, et en même temps qu'on ait ce reste sensible, matériel, également dans l'exposition. Et donc, en arrivant sur l'île, moi, je pensais voir des petits chatons mignons. Et puis, j'ai été vraiment choquée d'être accueillie par une bande de chats un peu zombies, enfin, des chats assez âgés. Et en visitant l'île, j'étais aussi surprise de voir qu'il y a énormément de maisons abandonnées, qu'il n'y a plus que, la première fois que je l'ai visité, 5 habitants, aujourd'hui plus que 3 habitants. Donc en arrivant, j'étais vraiment frappée par ce décalage, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de poursuivre mes recherches sur l'histoire de cette île, pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé à Aoshima pour qu'il n'y ait plus que 3 habitants et une quarantaine de chats un peu vieillissants.
Il y a toute une série de portraits de chats derrière nous. Ils sont en noir et blanc. Et puis, vous avez aussi appliqué un traitement particulier pour nous présenter cette colonie de chats.
Je ne voulais pas choquer avec des images un peu trop crues de chats qui sont parfois un peu malades, dans un mauvais état, parce qu'ils vivent dehors et parce qu'ils sont âgés. Et aussi, des portraits de chats un petit peu vieux et malade, c'était quelque chose que les habitants ne souhaitaient pas, parce que ça donne l'impression qu'ils s'en occupent pas, alors qu'ils sont à 24 heures sur 24 à se plier en quatre pour la santé de ces chats qui, je répète, vivent dehors et sont assez âgés. Donc on peut pas éviter une apparence parfois un petit peu difficile à soutenir, mais en tout cas moi j'avais envie de leur donner une image digne, et puis en fait l'idée de cette galerie de portraits, c'est vraiment de se souvenir de chacun d'entre eux et de leur personnalité.
Pour décrire un petit peu, vous allez le faire sans doute mieux que moi, Catherine, mais une des images que vous proposez ici, on se trouve ici, j'imagine, près du port d'Aoshima. Il y a une maison et puis des bancs, et sur ces bancs, il y a plein de chats. Il y a quelque chose de très doux, de très paisible dans cette image.
Oui, c'est la zone de nourrissage des chats. Donc le bateau arrive tous les matins et débarque aujourd'hui plus que quelques touristes. À l'époque, 43 touristes par jour, c'est la capacité du bateau, ce qui était une véritable invasion pour les habitants à l'époque, puisqu'ils étaient qu'une quinzaine. Et donc les touristes se dirigent directement vers cette zone en arrivant et nourrissent les chats. Donc c'est une zone où les chats aiment un peu traîner, parce qu'ils savent qu'il y a toujours une petite croquette à grappiller quelque part.
Au centre des photographies ici, il y a une femme d'un certain âge déjà, c'est une femme japonaise, une habitante d'Aoshima, j'imagine. Elle est centrale ici.
Oui, alors Naoko Kamimoto, c'est vraiment un personnage tout à fait central, puisqu'on l'appelle la maman des chats. C'est elle qui prend soin aujourd'hui de tous les chats de l'île d'Aoshima, puisqu'il n'y a plus que 3 habitants. Son mari va à la pêche. Il y a un autre monsieur, mais qui a d'autres occupations. Et donc, Naoko est vraiment la seule à s'occuper des chats. Elle les nourrit 2 fois par jour. Elle s'occupe de nettoyer leurs déjections. Elle soigne les malades. Elle nettoie les yeux de ceux qui ont un peu de conjonctivite. Donc, son quotidien est vraiment rythmé par les chats. Et donc, c'est vraiment devenu sa vie. Peut-être Madame Kamimoto va déménager un jour de l'île, puisque les conditions de vie sont assez difficiles et qu'elle a peut-être aujourd'hui 78 ans. Mais je pense qu'elle attend d'accompagner tous les chats jusqu'à leur fin avant de déménager.
Pouvez-vous nous décrire cette photographie de Madame Kamimoto ?
Alors, Madame Kamimoto, elle porte un tablier. Elle a toujours un tablier puisqu'elle est tout le temps en train de trifouiller dans du poisson, la nourriture pour chat. Elle est toujours en train de faire quelque chose. Elle est extrêmement dynamique. Elle porte un petit bob pour la protéger du soleil. Elle porte dans ses bras un petit chat qui s'agrippe à elle, un petit chat qui est borgne. Il s'agrippe vraiment à elle. Et je trouve que cette image, elle est importante parce qu'on voit bien, il y a beaucoup de dignité et puis il y a beaucoup d'affection. Et il y a une forme de protection aussi de Madame Kamimoto pour ses chats. Et elle résume beaucoup le projet. Et puis, je trouve qu'il y a aussi une harmonie dans les couleurs entre la maison de Madame Kamimoto, le petit chat et sa peau. Il y a quelque chose qui fonctionne bien.
Avant de descendre au sous-sol, Catherine Longly, nous voici face au comptoir de l'enfant sauvage. Un comptoir sur lequel on peut voir toute une série d'objets. Vous organisez, pendant la durée de l'expo, une tombola.
Plus exactement, une tombocha. Donc, ce sont des petits goodies que j'ai ramenés de mon voyage au Japon. Alors, c'est pas très difficile de trouver des goodies chats au Japon. J'avoue qu'il y a quand même une petite tendance. Mais il y a également un tirage à remporter. Il y a un carnet qui provient d'un temple aux chats que j'ai visité dans la préfecture de Fukui au Japon. C'est un temple qui accueille des chats errants et les moines s'en occupent. Donc, ce petit carnet vient de là-bas. Il y a des post-it avec des petits chats. Il y a aussi quelques objets qui viennent de Gacha Gacha. Donc, ce sont ces machines où on met une pièce, on tourne, on reçoit un petit gadget dans une petite boule de plastique. Au Japon, c'est très populaire. Il y a aussi une amulette censée protéger les animaux domestiques. Des cartes postales vintage avec des petits chats. Et le tirage de la tombocha aura lieu le 15 mars, le jour du finissage de l'exposition. Et les tickets sont en vente pendant tout le long de l'exposition.
Catherine Longly, on va descendre au sous-sol.
Allons-y.
Ehime-ken, Kita-ken, Nagahama-chō, Owaza, Aoshima.
Et ici, au sous-sol, on découvre une vidéo en VHS. C'est devenu assez rare aujourd'hui.
Oui, c'était d'ailleurs un petit défi d'arriver à trouver tous les câblages et le matériel nécessaire pour la diffuser. Pour moi, c'était important de marquer le contraste entre les images contemporaines et cette image d'archive qui date des années 80 et qui montre le festival de Bonodori tel qu'il était dansé à l'époque sur Aoshima. C'était un festival assez important sur l'île.
Un festival de danse.
Exactement. Alors, c'est un festival qui est devenu un patrimoine immatériel de la préfecture, car il a une forme tout à fait particulière à Aoshima, puisqu'il mélange les traditions des premiers habitants qui n'étaient pas originaires d'Aoshima avec les traditions de la préfecture d'Aoshima, ce qui a créé quelque chose de tout à fait unique au Japon.
Dans cette deuxième partie de l'exposition, Catherine Longly, ici à l'Enfant Sauvage, on découvre toute une série d'images d'archives, de documents. Vous avez passé beaucoup de temps à explorer l'histoire de cette île.
Oui, je me suis documentée énormément pour essayer de comprendre ce qui s'était passé sur l'île et puis qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire un peu anecdotique d'île aux chats, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années. Et donc, je suis allée avec mon interprète visiter des bibliothèques, rencontrer des anciens habitants, rencontrer des historiens locaux pour essayer de compléter le puzzle de l'histoire d'Aoshima. Alors, l'histoire commence en 1636, quand un pêcheur originaire de la région de Hakko, au Japon, lance ses filets un peu par hasard dans cette province autour d'Aoshima, et il fait une prise exceptionnelle. Donc, il se dit « Ah, c'est un endroit incroyable ici pour un pêcheur », et il demande au seigneur de Ozuk, la ville la plus proche, s'il peut s'installer sur Aoshima, qui est alors un lieu de pâturage pour les chevaux, donc il n'y a aucun habitant permanent. Le seigneur lui répond « Ok, et il s'installe avec 16 familles en 1639 à Aoshima, et c'est vraiment les premiers habitants. D'ailleurs, dans l'exposition, on peut voir une photo de la tombe de Akagi Kurasaemon, le premier habitant d'Aoshima, qu'on peut toujours voir sur l'île. Ensuite, il va vraiment faire prospérer l'île, donc ça devient une île de pêcheurs qui évolue, qui se peuple, et on arrive en 1945 avec 889 habitants sur 1 km de long, 300 mètres de large. Donc l'île est vraiment surpeuplée à l'époque. Il faut savoir que sur les hauteurs, il y a plutôt des plantations pour nourrir aussi cette communauté de pêcheurs. Donc la moitié des gens cultivent pour nourrir l'autre moitié qui pêche. Donc c'est vraiment surpeuplé.
Et à partir de 1945, le déclin s'enclenche, puisque les jeunes décident d'aller étudier ailleurs. La plupart du temps, ils ne reviennent pas, puisque les conditions de vie sont quand même difficiles sur Aoshima. Je rappelle qu'il n'y a pas d'eau courante. Souvent, les bateaux sont interrompus. Donc les jeunes commencent petit à petit à quitter l'île. On assiste à un basculement dans les années 70, puisque l'école primaire d'Aoshima ferme. Et quand l'école ferme dans un endroit, c'est le début de la fin, puisqu'il n'y a plus aucun jeune couple qui décide de s'y installer. Et donc à partir de là, la population décroît pour arriver en 2013 à une quinzaine d'habitants. C'est à ce moment-là que le destin bascule avec l'arrivée des touristes. Et aujourd'hui, en 2026, on est à 3 habitants. Donc je vais continuer à suivre l'histoire de l'île jusqu'au moment où il n'y aura plus d'habitants et peut-être même après où ce sera une autre forme de vie qui va peupler Aoshima, plutôt des formes végétales. On peut déjà observer sur certaines images dans l'exposition que des maisons ont été complètement avalées par la végétation et c'est un processus qui va sans doute continuer dans les années à venir.
Vous reproduisez sur le mur ici face à nous une grande photo qui date des années 80, une photo qui contraste grandement avec la réalité de l'île aujourd'hui.
Oui, alors on peut apercevoir sur cette image une bande de jeunes gens en maillot de bain. Ils sont assez beaux, ils sont jeunes, ils ont l'air de s'amuser. Et donc dans les années 80, l'île d'Aoshima est déjà en train de se dépeupler sérieusement, mais elle était restée une destination touristique pour le week-end. Les habitants de la préfecture venaient se détendre, pêcher, se baigner entre amis. Cette image, elle est assez incroyable. On dirait presque un espèce de Saint-Tropez japonais à l'époque. On a du mal à croire quand on voit l'image à côté, qui est une image des années 2010, où on voit plus qu'une poignée, une quinzaine d'habitants qui ont tous une septantaine d'années. En fait, l'histoire d'Aoshima, au-delà de l'anecdote de cette petite île au Japon qui se dépeuple, ça parle de plein d'autres thématiques. Et je pense que c'est pour ça que c'est une histoire qui est intéressante. C'est parce qu'elle ouvre sur des choses beaucoup plus universelles. Toutes ces dynamiques de dépopulation, problèmes démographiques auxquels le Japon est confronté de manière assez violente déjà aujourd'hui, mais qui pend au nez de plein d'autres sociétés. Mais ça parle aussi des problématiques du surtourisme qu'on connaît un petit peu partout, des dispositions de fin de vie et aussi de notre relation aux animaux.
L'exposition Cat Island Blues de Catherine Longley est à voir à la galerie L'Enfant Sauvage dans le centre-ville de Bruxelles jusqu'au 15 mars.
Je m'appelle Carla Hiraldo-Volo, je suis franco-dominicaine et on est ici dans l'expo de Another Love Story à La Nombreuse.
Bonjour, je suis Martin Gallonne, photographe et membre fondateur de La Nombreuse. Une ASBL conventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles que l'on a créée il y a 5 ans avec 9 autres personnes. On est 8 photographes et une historienne de l'art. On est ici à Saint-Gilles, rue du Fort, à Bruxelles. On est ici pour créer, soutenir la photographie, diffuser la photographie, les jeunes auteurs, les artistes émergents. On anime des projets, on organise des workshops, on organise des expositions, environ 2 par an.
Et vous participez au Photo Brussels Festival avec l'exposition de Carla.
Voilà, exactement. C'est la 4e année donc qu'on participe au Photo Brussels Festival. Et donc cette année, la 10e édition avec Another Love Story.
Carla, votre projet s'appelle Another Love Story, une autre histoire amoureuse. De quoi s'agit-il exactement ?
Another Love Story, c'est une exposition photo, une installation et un livre. Et c'est un projet sur une histoire d'amour et de rupture et de trahison même. J'ai du mal à employer le mot rupture quand il s'agit d'abus émotionnels. Mais c'est l'histoire effectivement d'une relation que j'ai vécue en 2020. Avec quelqu'un que j'ai décidé d'appeler X pour l'exposition. Un projet autofictionnel qui part d'une vraie expérience et qui ensuite va être rejoué, remanipulé, redigéré, puis représenté au spectateur ou au lecteur suivant comment on découvre le projet. Ici, on est donc dans une installation assez immersive. Environ 600 images au mur. C'est un petit format qui rappelle sûrement le format du téléphone, puisque ce ne sont que des images qui ont été prises avec le téléphone. Durant un an de relation avec X. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce projet. Il y a de la photo, il y a du texte, parce qu'il y a une retranscription d'un appel téléphonique que j'ai vraiment vécu à la fin de ma relation avec X, un appel téléphonique de 7 minutes avec une personne que j'appelle du coup elle, qui est l'autre femme de ce trio amoureux. Il y a aussi des écrans de téléphone avec des textos qu'on s'est échangés avec elle ou avec X. Et donc, je crois que je n'ai même pas encore dit que le cœur du sujet, c'est donc que X avait une double vie pendant l'année de notre relation.
Et donc, ce qu'on va découvrir dans cette exposition, dans tout ce projet, c'est donc les photographies de cette vie amoureuse avec une particularité, c'est que la plupart de ces photographies ont été mises en scène a posteriori. Ce n'est pas X qu'on voit dans la plupart des images, mais un acteur que vous avez payé vraiment pour le projet.
Exactement. C'est un acteur et modèle, qui, Pierre Ansergues, que j'ai engagé à la fin de cette relation. Quand j'ai tout découvert, cette tragédie, ce cataclysme, j'ai décidé très rapidement, en fait, moins d'un mois plus tard, d'en faire un projet. J'avais une commande de la Maison européenne de la photographie à l'époque. Je devais faire une exposition sur l'amour et il m'est arrivé ça en pleine préparation du projet. Et je ne pouvais pas parler d'autre chose que ce qui m'arrivait à ce moment-là. Et j'ai décidé, avec la force de la création, de transformer cette chose horrible qui m'arrivait en peut-être une histoire positive et une sorte de résurrection. On peut appeler ça art-thérapie, on peut appeler ça résilience, on peut appeler ça comme on veut. Ça s'est imposé à moi et c'est une approche que j'avais déjà eue dans mes études aussi, de rejouer certaines histoires de ma vie. Enfin, j'étais pas complètement, c'est pas un terrain inconnu pour moi. C'est pour ça que je me suis engagée vers cette solution, on va dire, parce que je savais que je voulais utiliser les images de ma relation avec X et de parler de cet abus émotionnel et de cette trahison, qui finalement est une histoire très commune. Je m'en suis rendu compte par la suite. Le but de ce processus, c'était de reprendre le contrôle sur ce qui était en train de m'arriver et de recentrer ma voix et mon histoire à un moment où elle m'était complètement niée. Parce que c'était évidemment, on peut s'imaginer une rupture, une cassure extrêmement violente, parce qu'on est au-delà en fait de la peine de cœur ou de la tristesse romantique ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un choc mental énorme, puisqu'il y a toute une année de notre vie qui est complètement effacée. On se fait évidemment plus confiance. Enfin, ça parle aussi de reconstruction de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Et donner un peu aussi d'espoir qu'on peut s'en remettre, en fait, tout simplement, qu'il y a plein de moyens très originaux, très propres à chacun, de se remettre d'une histoire d'amour toxique.
Carla Hiraldo-Volo, la première page de texte que l'on découvre dans cette exposition, il y a le titre du projet, Another Love Story, et puis vous avez écrit à la main, tout est vrai, sauf ce qui est faux.
C'est vrai que dans cette exposition, on est constamment entre le vrai et le faux, la réalité et la mise en scène. On se demande sur les photos si je joue un rôle, si c'est des photos de ma vraie relation. Quelle est notre relation avec l'acteur? Est-ce qu'on est vraiment amis? Est-ce qu'on est si proche que ça? Est-ce que ce sont des photos de X? On est constamment dans le doute. Et c'est évidemment une manière pour moi d'imiter ce que j'ai ressenti pendant toute la destruction de cette relation, puis toute la période de reconstruction où j'étais complètement dans le doute tout le temps à me poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui était vrai, quelle est la part de moi qui n'a pas pu voir, quelle est la part de moi qui a décidé de ne pas voir, quelle est la part de lui qui jouait un rôle. Il y a aussi une question de cette idée du couple parfait, de cette idée que d'être en couple, surtout voilà, un couple hétérosexuel jeune, qui s'affiche, enfin, peut-être je postais un peu des images de nous sur les réseaux, me poser la question de pourquoi est-ce que j'avais besoin de montrer que j'étais en couple tout court et de faire ces images finalement qui sont très romantiques, très léchées. Il y a beaucoup de couchers de soleil, de belles lumières, de sensualité. Et je me suis posé la question, pour qui est-ce que j'étais en train de performer? À qui est-ce que j'essayais de convaincre que j'étais dans un couple si parfait, alors qu'évidemment plus j'étais dans un couple bien loin d'être parfait. Qu'est-ce qu'on sait des autres, de notre partenaire, de nous-mêmes? Ça donne un peu le vertige parce que ça nous amène à nous poser des questions pas très agréables sur le mensonge envers nous-mêmes. La confiance entre les humains, elle est très fragile. Et cette performance du couple en ligne, ça m'a frappée quand j'ai mis toutes les images au mur. Je me suis dit, mais quelle mascarade. Et ce projet embrasse vraiment pour moi cette idée que la photo ne révèle rien de la réalité. C'est une projection de nos sentiments, de notre vie. Enfin, c'est juste une projection, quoi. C'est une interprétation de notre vie, mais c'est pas le reflet de notre vie.
Sur toutes ces 600 images, en fait, il y en a qui sont fausses, il y en a qui sont vraies, et on sait pas lesquelles. Oui, la photo, elle crée des souvenirs, mais en fait, on crée ce qu'on veut parce qu'on photographie notre couple, là, au soleil, lumière dorée. Mais en fait, ça se trouve, l'homme mène une double vie, tout est faux. Et à la fois, on fait une image qui, elle, est vraie, qu'on montre après sur les réseaux. Et c'est ça, c'est collé à la norme, à cette image du couple parfait, qui en fait ne l'est pas. Donc oui, il y a tout ce rapport photographie-réalité. Est-ce que la photo, c'est le réel? Est-ce que c'est une construction du réel?
C'est vrai qu'une photographie ne peut pas représenter la vérité avec un grand V. En revanche, ce dont je me suis rendu compte dans ce projet, c'est que au fil de l'année, on voit que la manière que j'ai de le photographier révèle quelque chose qui m'était caché. Et c'est vrai qu'au début de l'année, il y a une explosion de sensualité, il y a beaucoup, beaucoup d'images, on le voit sous tous les angles, on le voit très frontalement, etc. Plus l'année passe, et donc évidemment plus il y a des cassures qui sont dans la relation, plus dans l'inconscient je commence quand même à me réveiller, plus ça se traduit dans la manière que j'ai de le photographier. Donc à la fin, il est absolument fragmenté, on voit des petits bouts de visage, c'est des photos où il est de dos, dans l'ombre, ou alors même carrément il a les yeux froncés, il sourit pas. Et alors au final c'est un peu logique, c'est que la relation arrivait à sa fin, mais aussi je trouve intéressant que quand même il y a une ligne directrice, enfin quelque chose qui m'échappait, mais qui finalement révélait quelque chose de vrai.
On va pas dévoiler tout le récit que vous faites, ni son épilogue. J'aimerais qu'on se quitte en musique, Carla. On va peut-être quand même mentionner quelque chose que vous avez imaginé dans cet épilogue.
Vous parlez de la chanson « I Will Survive » de Gloria Gaynor, qui est effectivement écrite dans la dernière page du texte qui est au mur, qui est très très cliché, avec laquelle je pensais pas du tout accrocher ou raisonner un jour plus que ça. Et en fait, quand on écoute les paroles, bah, c'est vraiment l'hymne de la femme qui a été blessée, mais qui s'en relève avec une grande force et une grande vitalité.
L'exposition Another Love Story de Carla Hiraldo Volo est à voir à La Nombreuse à Saint-Gilles jusqu'au 22 février. Eh bien, merci beaucoup. On va se rendre juste en face dans cette rue du Fort pour découvrir une autre exposition du collectif La Nombreuse. Jeunesse placée d'Héloïse Brunet et Romain Cavalin. C'est au Piano Fabrique.
Moi c'est Romain.
Bonjour Romain.
Enchanté.
Enchanté.
Bienvenue au Piano Fabrique.
Merci.
Alors moi je m'appelle Romain Cavalin, je suis photographe et je travaille dans une association qui s'appelle La Nombreuse, qui est juste en face.
Moi je m'appelle Héloïse Brunet, je suis photographe et je travaille aussi dans le collectif qui est juste en face.
Vous présentez ici un travail que vous avez effectué ces derniers temps avec des jeunes placés en IPPJ.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, les IPPJ, c'est des institutions publiques de protection de la jeunesse. Et en fait, c'est des institutions dans lesquelles des adolescents âgés de 14 à 18 ans se retrouvent parce qu'en fait, ils ont commis des faits qualifiés d'infraction si jamais ils étaient adultes. Et donc, ils sont retirés, disons, de la société pour être mis à l'intérieur de ces institutions. Et puis, en général, ça commence, en tout cas, les jeunes avec lesquels on a travaillé, avec des peines de 3 mois. Et puis, ça peut s'étendre jusqu'à 1-2 ans, jusqu'à leur majorité.
Et la première chose qui frappe quand on voit vos images, c'est que vous avez respecté une série de règles, et notamment celle de l'anonymat.
On a eu pour obligation, pour leur protection, de ne pas diffuser leur visage. Et donc on s'est concentré principalement justement sur des mises en scène, ou en tout cas on a essayé de trouver des manières de pouvoir les représenter tout en respectant cette règle.
Alors à la base, on nous a demandé de réaliser un travail en lien avec un IPPJ, celui de Wautier-Bren. Donc c'était l'association Babel qui est venue nous voir pour monter 3 séances d'atelier. Et à la suite de ces 3 séances d'atelier, on s'est dit avec Héloïse que c'était très important qu'on continue à travailler en IPPJ, développer un travail autour de l'image avec ces jeunes.
Je crois que ni l'un ni l'autre, en fait, ne connaissions vraiment l'existence de ces institutions. Et je pense qu'un des premiers trucs qui nous a frappés, c'est donc cette rencontre avec ces jeunes qui sont en fait en train de vivre une situation d'enfermement et qui sont en fait en ébullition. Enfin, il se passe plein de choses, quoi. Et du coup, on arrive avec cet appareil photo qu'on propose de mettre en fait au centre, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de rôle défini, tout le monde est photographe, tout le monde est modèle. Et on a vu l'engouement en fait des jeunes. On s'est dit, ok, mais là en fait il y a quelque chose à faire et ça nous a donné envie de continuer.
Et avec Héloïse, on a les deux eu une formation de photographie documentaire. Et donc on a appris aussi à passer énormément de temps avec les sujets qu'on traite et à faire des allers-retours. Et 3 séances, c'est généralement un peu court pour commencer à raconter des histoires. Et on s'est dit que voilà, il en fallait peut-être 7 de plus pour pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans une réalité des expériences que vivent ces jeunes.
Qu'est-ce que la photographie peut apporter à des jeunes qui sont dans ces situations d'enfermement en IPPJ ?
Je ne sais pas si c'est la photographie ou le fait de faire quelque chose, mais en tout cas, qu'il y ait des propositions en fait, des adultes du monde extérieur qui se rendent dans ces espaces et qu'on propose de faire quelque chose ensemble, je pense que ça déjà c'est super. Parce qu'en termes d'activité, ils sont quand même assez restreints. Et je pense que la photographie, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois c'est une manière de se regarder soi, de regarder les personnes qui nous entourent et aussi de découvrir en fait des faits de société, parce qu'on avait quand même un procédé à chaque fois assez précis avec Romain, qui était qu'à chaque début d'atelier, on ramenait des ouvrages de photographie documentaire. Ce qui permettait quand même vachement de s'ouvrir sur la société, d'ouvrir des dialogues sur l'image, mais aussi sur ce que les livres racontent.
Avec les filles de l'IPPJ de Saint-Servais, en fait, on a essayé, il y a plusieurs séances d'ateliers qui ont été données sur le fait de remettre en scène des scènes vécues au sein de l'IPPJ, ou en tout cas des scènes marquantes pour elles, et des faits marquants de l'IPPJ. Donc, par exemple, on peut débuter l'exposition par quelque chose d'interdit à réaliser, donc, c'est-à-dire deux filles qui chuchotent entre elles, c'est la règle. Deux résidents de l'IPPJ n'ont pas le droit d'être dans une pièce sans la présence d'un adulte. Ce qui veut dire qu'en fait, elles n'ont pas le droit de se dire des choses sans qu'un adulte puisse les écouter. Donc, on a décidé de remettre ça en scène, d'une certaine manière. Donc voilà, il y a plusieurs scènes comme ça qui sont en fait des scènes rêvées ou fantasmées qui ne se passent normalement pas en IPPJ.
Romain, on se trouve ici face à une photographie d'une jeune fille dont on ne voit pas le visage. Elle est au téléphone et c'est un téléphone avec un fil. Il est marqué Belgacom dessus. On dirait que c'est un très vieux téléphone, un téléphone du siècle dernier probablement.
L'infrastructure des IPPJ est des fois un peu vieillotte, y compris le téléphone. C'est une image importante pour nous parce qu'elle reflète bien la possibilité. Il n'y a aucun jeune qui a le droit à un téléphone portable. Et donc, ils ont le droit à 10 minutes d'appel par jour. C'est d'ailleurs la légende de cette photo, 10 minutes par jour. Et donc, il y a un téléphone pour toute la section, donc pour tout un bâtiment. Vous pouvez imaginer comment c'est difficile pour certains jeunes de joindre et leur avocat, et la juge, et leurs parents. C'est un objet qui sacralise un petit peu toutes les tensions au milieu de cette institution. C'est le téléphone. Ouais. Ensuite, on continue sur la scène du Grand Parloir. Ce groupe de deux photos s'appelle le Grand Parloir. Et en fait, c'est une salle auquel les jeunes n'ont pas accès, normalement. Donc, c'est seulement les adultes qui utilisent cette salle et qui, en fait, s'assoient autour d'une table et discutent du cas de ces jeunes. Donc, on a décidé, à un moment donné, de se réapproprier ça et de mettre une pensionnaire, une participante de l'atelier, au milieu de ces tables. Il y a une autre photo qui s'appelle l'anniversaire. C'est tout simplement un gâteau d'anniversaire avec 14 bougies dessus.
Toute l'exposition est aussi complétée par une série de lettres qui ont été écrites par les jeunes.
C'est des correspondances en fait, qui ont été échangées entre des jeunes filles placées en foyer et puis les garçons de Wattier-Bren. Parce que moi, à ce moment-là, je donnais des ateliers en foyer et il y a eu une curiosité de la part des jeunes de pouvoir échanger, en fait, de pouvoir se rencontrer. Parce que la plupart des jeunes qui se retrouvent en IPPJ, c'est quand même des jeunes qui ont été placés en foyer, pour beaucoup d'entre eux. Donc de là a commencé cette correspondance. Et puis à Saint-Servais, il y avait plus cet aspect de correspondance, mais on a quand même proposé aux participantes qui le souhaitaient d'écrire une lettre pour les visiteurs en fait, qui allaient rencontrer cette exposition. Être à l'IPPJ, c'est être soumise à un tas de règles qui n'a pas toujours de sens. C'est également ne plus pouvoir s'exprimer librement, toujours être sous la menace qu'une sanction nous tombe dessus. C'est aussi tomber sur des personnes extérieures qui se permettent de juger comment on est et ce qu'on pense, mais aussi des éducateurs qui pensent devoir nous transmettre une éducation, en oubliant tout ce que nos parents nous ont transmis. C'est tout simplement devoir rentrer dans une case et se comporter d'une façon qui ne nous ressemble pas. Mais c'est aussi tomber sur des personnes bienveillantes qui souhaitent réellement nous aider, nous connaître et surtout nous comprendre.
Au centre de l'espace, ici au Piano Fabrique, dans l'exposition, on va retrouver une table lumineuse avec toute une série de photographies. Là, ce sont véritablement des photographies qui ont été prises par les jeunes de l'atelier.
Et ces photographies ont été faites en atelier avec un dispositif assez simple. C'est-à-dire que nous, on ramène un appareil photo, un seul. Un appareil photo numérique qui est relié à un flash. Et il faut être deux pour faire des photos. Il en faut un qui tient le flash, la lumière, et l'autre qui tient l'appareil photo. Et donc c'est réellement une collaboration entre deux participants à l'atelier.
Dans la feuille de salle, on retrouve avec les légendes deux textes. Le premier qui est le texte d'exposition, et puis le second qui est un texte écrit par un des participants. Et donc on a reçu ce texte et on a décidé de le mettre comme ça.
Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le Jardin des Secrets. Vous vous apprêtez à rentrer dans un espace intime, souvent invisible, celui des jeunes placés en IPPJ. Des jeunes que l'on pourrait comparer à des fleurs parfois fanées, au cœur fâché, mais dont la douceur demeure profondément enfouie. À travers cette exposition, vous découvrirez leurs secrets, leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi leur instant de joie, d'espoir et de bonheur. Des émotions que les mots peinent parfois à exprimer, mais que l'image peut révéler avec justesse et sensibilité. Notre souhait est de vous inviter à regarder au-delà des apparences, à porter un autre regard sur ces jeunes et à partager notre vision. À travers chaque image, nous avons voulu donner une voix à ce qui se ressent, à ce qui se vit intérieurement, là où les mots ne suffisent plus. Merci à vous et belle découverte. Signé Anonyme 8.
L'exposition Jeunesse placée d'Héloïse Brunet et Romain Cavalin est à voir au Piano Fabrique à Saint-Gilles jusqu'au 21 février. Dernière étape de notre balade à Bruxelles, à la découverte de quelques-unes des expositions du Photo Brussels Festival, le Hangar, place du Châtelain. On peut y voir ces jours-ci l'impressionnante installation The House, la maison de Lee Schulman, et l'exposition collective Histoire de famille.
Alors, Photo Bruxelles Festival est né d'une envie de mettre ensemble tous les acteurs de la photographie à Bruxelles. Et donc on a commencé petit, puisque la première année il y avait 3 lieux. Et maintenant, donc au bout de 10 ans, 52 expos ont rejoint la programmation cette année. Donc c'était vraiment l'envie de mettre en avant cette scène belge, sa vitalité et des propositions qui peuvent être un peu éparses de par la géographie de la région de Bruxelles capitale et aussi de par les propositions, enfin les types de propositions. Donc l'idée c'était de créer un mois de la photo, un moment où le public peut voir un ensemble d'expositions consacrées à ce médium. Je m'appelle Delphine Dumont et je suis directrice du Hangar depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai créé, il y a 10 ans également, Photo Bruxelles Festival. Alors, premièrement, il y a peu de lieux qui sont entièrement consacrés à la photographie à l'année. Nous nous comptons sur les doigts d'une main. Enfin, je parle du Hangar, évidemment, mais aussi d'autres lieux comme Contre-Type, la Box-Galerie, la Nombreuse, l'Enfant Sauvage, mais très peu. Alors que dans d'autres capitales, les capitales qui nous entourent, il y a beaucoup de galeries qui font de la photo tout le temps. Donc là, c'est déjà une première caractéristique. Contrairement à la présence de nombreuses écoles de photo, donc il y a beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre la photographie à Bruxelles, beaucoup d'artistes qui ont élu domicile à Bruxelles parce qu'ils trouvent des ateliers, des endroits pour travailler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux voilà, qui exposent de la photo à l'année. Donc c'est pourquoi, lors du festival, on réveille un peu les initiatives et donc on trouve des propositions très très diverses, variées, à l'image de ce qu'est Bruxelles aujourd'hui aussi. Donc des galeries d'art contemporain qui montrent de la photo une fois par an, des institutions, des centres d'art, des écoles de photo, des collectifs de photographes, des home galleries, beaucoup de galeries à domicile. Donc c'est aussi à l'image de la vitalité, de la diversité de Bruxelles. Et c'est vrai que je pense qu'avec la photographie, on touche un public beaucoup plus large que d'autres médiums de l'art contemporain. La photographie est accessible et elle permet d'évoquer des sujets qui traversent notre époque, comme l'écologie, le genre, les histoires familiales. C'est à la fois des propos d'artistes, mais aussi des engagements par rapport aux problématiques du monde d'aujourd'hui.
Le Photo Brussels Festival est à vivre ces jours-ci dans la capitale. Il rassemble plus de 100 artistes pour 52 expositions. Tous les détails sur le site photobrusselsfestival.com. Nous partons à présent pour les Hautes-Fagnes, à la rencontre de Daniel Detière, architecte et ingénieur. Daniel Detière nous a donné rendez-vous à Outrewarche, dans l'une de ses dernières réalisations, sa maison Ozomi.
Bonjour. Ben oui.
Également présent ce jour-là, son ami Norbert Nelles, architecte et professeur à la faculté d'architecture de l'Université de Liège.
Bonjour.
Ça va, Norbert Nelles?
Enchanté.
On se trouve dans une maison Ozomi. Ozomi veut dire la découverte de la beauté du quotidien. Et cette maison est située sur un terrain en forte déclivité vers la Warche, qui se jette dans le lac de Robertville. Robertville, qui est un petit village qui se situe au pied du signal de Beautrange, point culminant de la Belgique à 694 mètres.
Norbert Nelles, vous avez signé un grand texte dans le dernier numéro d'Archidoc autour de la vie, de la carrière de Daniel Detière.
On a eu l'occasion de travailler ensemble, de voyager ensemble. On se connaît depuis qu'on est adolescent. Daniel Detière, pour moi, est quelqu'un d'intransigeant sur la qualité, notamment la qualité d'exécution. Donc c'est quelqu'un aussi de passionné par son métier, un jusqu'au boutiste. Tout doit être impeccablement terminé, ce qui pose parfois des problèmes avec des entreprises où ça peut parfois être vu comme quelque chose de rebutant. Mais je crois que dans ce sens-là, ça sert d'exemple par rapport à d'autres architectes, de dire jusqu'où peut-on aller. Ça me semble vraiment quand même une démarche qui est assez passionnante à suivre à ce niveau-là. Je crois que Daniel n'a pas l'habitude de compter ses heures quand il est investi dans une mission quelque part. Je le considère comme un grand architecte.
Est-ce que Daniel Detière, vous pourriez nous décrire l'endroit où l'on se trouve ?
On est dans une cabane perchée au niveau des frondaisons des arbres. C'est une cabane comme celle que je construisais quand j'étais gamin, au sommet des hêtres qui bordaient la propriété familiale. Cette maison est un système de construction modulaire que j'ai appelé Ozomi. Alors, pourquoi vouloir construire de manière différente ? C'est parce que d'abord, la construction traditionnelle est trop polluante. Ensuite, c'est parce que la construction traditionnelle est trop chère. Le coût de la construction aujourd'hui empêche la plupart, en tout cas des jeunes, d'acquérir une maison. Ça va poser des problèmes parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que les gens qui ont une maison, lorsqu'ils deviennent plus âgés, ils mettent cette maison en rente viagère ou ils la vendent, ce qui leur permet de compléter leur petite pension pour aller en maison de repos. La jeunesse, aujourd'hui, n'aura pas les moyens d'avoir des biens, sauf d'hériter, hein. Mais ça, ils sont quand même une minorité. Donc il faut essayer de voir comment on peut faire des logements plus compacts, plus adaptés, plus isolés, moins chers. Et la construction modulaire, donc c'est une construction préfabriquée en atelier. on construit l'ensemble des modules qui font 3 mètres sur 6 sur 3 dans un atelier, ce qui permet d'avoir une main-d'œuvre plus valorisée. Elle travaille à l'abri des conditions météo, elle pilote des machines-outils, et ça n'a plus rien à voir avec le travail dur qui était fait avant par les maçons et les gens qui travaillaient sur le chantier, qui portaient des sacs de 50 kilos de ciment et de sable. Donc on est plus en phase avec la manière de respecter la main-d'œuvre. Et donc on peut mieux contrôler la construction. On peut répéter des systèmes constructifs et les améliorer en les répétant, parce qu'une maison comme celle-ci est composée de 11 modules. Tous les modules arrivent sur des camions et puis avec une grue, ils sont déchargés et assemblés les uns sur les autres. Et ces modules sont construits avec une ossature en acier, ce qui permet de faire des grandes baies vitrées comme celle-ci, parce que cette ossature en acier, vous voyez ici, tous les murs, en tout cas, ces deux murs-là sont entièrement vitrés et ils reprennent pourtant un étage, ce qui ne serait pas ou difficilement faisable en construction traditionnelle.
Ces constructions modulaires, ce sont des réflexions que vous menez depuis longtemps, depuis vos études pratiquement.
La première maison que j'ai construite, qui est tout près d'ici, était déjà une maison en bois et préfabriquée. La construction modulaire, c'est l'aboutissement de la préfabrication. On ne sait pas aller plus loin dans la préfabrication parce qu'on amène des modules qui sont complètement terminés, qui ont leur bardage, leur système de chauffage, leur mobilier, tout arrive fini. Ça permet donc de ne pas avoir tous ces va-et-vient de camionnettes et de camions sur les routes. On vient une fois déposer le module lorsqu'il est terminé. Moi, ça fait plus de 10 ans que je réfléchis sur le système Osomi. Mais ça fait 45 ans que je réfléchis à la préfabrication. Et aujourd'hui, on vient de livrer 2 gîtes ruraux à Vresse sur ce mois. Et on est en train de construire 10 logements de 60 modules pour la société de logement, à chacun son logis à Courcelles. Et aussi, comme les charges sont concentrées au niveau des colonnes, on peut construire sur des pilotis. Par exemple, cette maison-ci, je l'ai construite sur des pilotis pour l'articuler au terrain qui est en forte déclivité, sans faire des grosses fondations et venir tout bouleverser avec des bulldozers. Mais on pourrait très bien imaginer, dans la vallée de la Vesse, par exemple, construire des cités lacustres, c'est-à-dire construire des maisons où on habite le premier étage, laisser le rez-de-chaussée libre, sujet aux inondations, mais ce sont des zones communes de convivialité, de potager, de jeux, de rencontres, qu'on peut utiliser 99,9% du temps. Et ça permet d'avoir des vues extraordinaires sur la vallée, et surtout de ne pas délocaliser les gens qui y habitaient, et de ne pas en faire les premiers réfugiés climatiques européens.
Daniel de Thiers, cette région, les Fagnes, même les Hautes Fagnes, c'est une région que vous connaissez bien, c'est la région où vous avez grandi.
Oui, c'est ma région natale. Puis j'ai un grand-père, Clément, qui a été d'ailleurs soldat prussien, parce que jusqu'en 1918, la région ici était prussienne. Donc mon grand-père, à 16-17 ans, il est né en 1899, a été enrôlé dans l'armée prussienne. Et il a fait Verdun côté prussien, cela a assez traumatisé. Et puis c'est lui d'ailleurs qui a construit le signal de Botrange, la tour. Mon père a repris une entreprise de construction et menuiserie. En tout cas, moi je suis très attaché à ma région.
Le signal de Botrange, vous êtes aussi impliqué en tant qu'architecte aujourd'hui?
Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir rénover tout le site. On a essayé de faire ça le plus naturellement possible. C'était un chantier magnifique parce que la commune ne disposait pas de beaucoup de moyens et a fait travailler beaucoup les ouvriers de la régie communale. Et donc les maçons et les menuisiers ont eu l'occasion de travailler sur un ouvrage plus représentatif qui les mettait plus en valeur. Donc ils se sont tous investis dans ce travail. On a maçonné des blocs de chanvre, on a maçonné des pierres de la carrière de Wem. Sur les blocs de chanvre, on a mis des enduits en terre de Wem. Et Les gens de la commune qui ont travaillé, qui sont originaires de la commune, ont évidemment fait venir leur famille, venaient montrer le chantier. Et ça a vraiment été un chantier très, très agréable, où on n'avait pas ce stress qu'on a avec des entreprises habituelles, où le personnel est un peu démotivé parce que on le fait travailler au plus vite pour rentabiliser le chantier. Et donc, il y a une ambiance désagréable qui s'installe. L'objectif, ce n'est pas de faire au mieux, c'est de faire le plus vite.
Pour vous, Daniel Detiers, les matériaux locaux, le circuit court dans la construction, c'est quelque chose d'important ?
Ben, c'est essentiel. C'est essentiel d'essayer de préserver les ressources naturelles des lieux où on habite. Les circuits courts, ça permet de faire des économies en carbone. On s'éloigne de l'industrie pétrolière. Et ensuite, quand on construit avec des matériaux locaux, les bâtiments que l'on construit sont naturellement, viscéralement mieux intégrés de par leur nature même. C'est comme des émergences du sous-sol. Si on prend de la pierre du sol où on construit, la maison, ben, elle est là naturellement. C'est comme si c'était le sol qui s'était mué en maison. Donc il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Bien sûr, sur le court terme, construire de cette manière-là, c'est plus cher. Ça, c'est la difficulté. Mais là, il y a des alternatives. On peut essayer de construire plus petit, hein, plus compact. Construire aussi de manière à ce que les frais de fonctionnement coûtent moins cher, mieux isolés, mieux orientés.
Daniel Detiers, vous ne travaillez jamais seul. Vous travaillez forcément avec d'autres personnes, et notamment avec des artistes.
On n'est pas auteur à 100% de ce qu'on fait. On est dans une société, il y a des courants d'idées, de pensées, on a des amis, on a des professeurs, on a des lectures, on a des visites. Et donc, ce qu'on fait émane de toute une culture collective. Et l'objectif quand même des lieux que l'on crée, c'est d'assurer le bien-être des gens qui vont y vivre. C'est pour ça que des bâtiments comme le centre de revalidation des SNEU ou le centre funéraire de Welkenrade, ce sont des espaces où on peut réellement apporter quelque chose aux gens, les apaiser, leur donner un peu de bien-être pour les aider à supporter des épreuves très compliquées. Et dans ce cadre-là, c'est sûr que l'aspect poétique, l'aspect beauté de l'architecture, que moi, j'essaye de trouver dans le rapport avec la nature, comme ici, hein, on voit l'importance de la nature, l'importance du soleil aussi dans la variation des façades, comme à Droix, par exemple, avec Jean Glibert, on a mis des petites palettes d'inoxydable sur les façades qui font qu'en fonction de l'heure du jour et de l'orientation du soleil, la façade est tout à fait différente. C'est évident que cet aspect poétique, c'est quand même un élément essentiel du bien-être, et c'est quand même un objectif qu'on essaye de poursuivre. Et dans ce cadre-là, demander à des artistes de collaborer à l'architecture, c'est quelque chose de très important, parce que c'est une autre démarche, c'est prendre les choses peut-être d'un autre côté, c'est une autre sensibilité, ça amène autre chose, et ça m'apporte énormément. Je pense bien entendu à Jean Glibert, mais je pense aussi à Daniel Dutrieux, à Léon Huidard, à Nicolas Kozakis. On vient de terminer un beau travail avec Blanbec. Donc tout ça, ça apporte dans le processus global de la conception de l'immeuble. Jean Glibert, pour ça, était autant architecte qu'artiste. Et quand on travaillait avec Jean, on échangeait des idées qui dépassaient largement le cadre de son intervention. On va chercher vraiment des choses hypersensibles et fondamentales. Le jeu de la lumière, le jeu de l'ombre, le rapport avec les choses qui nous entourent. C'est ça qui fait la qualité. C'est ce qu'on essaye de faire. On n'y arrive pas malheureusement toujours, mais c'est vers là qu'on essaye de tendre. Peut-être dire aussi un mot sur les nombreux collaborateurs, parce qu'il est évident que je travaille beaucoup, je vois qu'en 45 ans, il y a pas mal de trucs qui sont réalisés. Mais tout seul, on n'est rien, évidemment, dans un bureau d'architecture. Il y a des collaborateurs, il y a des dessinateurs, il y a même un comptable. Et puis, il y a toute la famille qui est autour, C'est un ensemble qui fait qu'on est amené à aller dans ce sens-là. On n'est rien tout seul. Les parents, les frères et sœurs, le professeur à l'université, par exemple Jean Glebert, mais aussi les amis, tout l'entourage. Et on fait partie d'une époque, tout ça. Je crois qu'il faut, par rapport à tout ça, être très modeste. Mais ce qui est important, c'est qu'on aille dans le bon sens, quoi. Qu'on n'aille pas dans le sens de la facilité et qu'on essaye de faire en sorte que le monde dans lequel on vit, les villes dans lesquelles on vit, les villages dans lesquels on vit, soit durable et qu'on contribue aussi à laisser à nos enfants, petits-enfants, enfin les générations futures, un mode dans lequel ils puissent vivre correctement.
Pour en savoir plus sur la carrière de Daniel Dethiers, le Gard Archives d'Architecture a publié tout récemment un ouvrage monographique richement illustré dans sa série Archidoc. Il est disponible en librairie. C'est ici que se referme cet épisode de Façon de voir, réalisation Fabrice Cada, avec le soutien de la Direction des Arts Plastiques Contemporains et de la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.